Chers frères et sœurs et chers amis, nous allons continuer sur le thème le plus important qui soit dans les Saintes Écritures, c'est la prière. Nous arrivons maintenant au numéro 26 et nous aurons comme thème pour aujourd'hui, 7 exemples pourquoi nous devons prier. Il y a des raisons primordiales qui doivent contraindre tous les hommes et les femmes à prier, à faire de la prière la chose la plus constante et la plus importante de notre vie. Jésus-Christ lui-même nous l'ordonne et en disant que tous les hommes et les femmes devraient prier. Voici quelques-unes des raisons de nous engager dans ce saint service. Premièrement, parce que Dieu nous le recommande instamment dans la Bible. La suprême raison pour décider de faire une chose, c'est bien entendu que Dieu l'a ordonné. Et Dieu nous a ordonné de prier. Et de nombreux passages dans sa sainte parole nous le confirment. Dans Luc chapitre 18, verset 1, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Cet ordre s'applique non pas à une certaine catégorie de gens, mais à tous les hommes et les femmes en tout lieu, en tout temps, sans exception aucune. C'est donc là un devoir impérieux que Jésus-Christ nous enseigne dans cette parabole. Dans 1 Thessaloniciens, au chapitre 5, verset 17, il est dit « Priez sans cesse ». Nous avons ici un commandement qui ne saurait être modifié par son contexte. Tous ceux qui lisent et étudient la Bible, et ceci en tout pays et en toute langue, se trouvent confrontés par cet ordre divin de prier sans cesse. En effet, la prière consiste à tourner nos cœurs vers Dieu, et ceci à tout moment de notre vie, au sujet de tous nos besoins, de sorte que notre esprit demeure en relation constante avec Dieu, comme une mère entend le cri de son bébé, même pendant qu'elle dort. Ainsi, le chrétien peut avoir le cœur tourné vers Dieu au milieu de ses travaux quotidiens, comme encore pendant son sommeil. Dans Philippiens chapitre 4, verset 6, il est dit « Ne vous inquiétez de rien ». Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Le chrétien est donc appelé à faire de tout ce qui le concerne, absolument tout, un sujet de prière. Dans 1 Timothée chapitre 2, verset 1, il est dit « J'exhorte donc avant toute chose » à faire des prières, à faire de nos prières, carrément des supplications, des requêtes et des actions de grâce pour tous les hommes et les femmes. Nous avons l'ordre de prier non seulement en tout temps, mais encore pour tous les hommes et les femmes. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications et veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Oui, priez aussi pour moi. Éphésiens chapitre 6, versets 18 et 19. Donc, voyez-vous, ce passage, il sert de conclusion à la description de l'armure du chrétien et en plus, donne le dernier mot en ce qui concerne sa force spirituelle pour le combat. Notez bien le mot « tout » qui revient sans cesse. En tout temps, toute prière et supplication pour tous les saints, et cela en toute persévérance selon l'original. De même que les croyants d'Éphèse devaient prier pour l'apôtre Paul, nous avons le devoir particulier d'intercéder pour nos conducteurs spirituels ainsi que pour tous les saints. Dans l'évangile de saint Matthieu, chapitre 26, verset 41, il est dit « Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation ». Cet ordre de notre Sauveur répété dans saint Marc, chapitre 14, verset 38, et même dans saint Luc, chapitre 22, verset 40 et verset 46, nous concerne tout comme les disciples d'alors. Et pour observer tout ce qu'il nous a commandé, selon saint Matthieu 28, verset 20, il nous convient à nous aussi de prier pour échapper, oui, pour échapper à la tentation. En plus de l'ordre général à tous les chrétiens de prier en tout temps et pour toutes choses, nous trouvons dans les Saintes Écritures des sujets spéciaux pour lesquels il nous est dit de prier. À maintes reprises, saint Paul demande au lecteur de ses épîtres de le soutenir par leur intercession. La prière est donc un devoir expressément commandé à chaque chrétien, et ceci en tout temps, pour tout le monde et pour tout ce qui le concerne. Ne pas prier est donc un péché, une désobéissance flagrante à un commandement précis de Dieu. Sans nul doute, nos fautes et nos erreurs, la faillite de notre service découle invariablement de notre manque de prière. Samuel, il dit un jour au peuple d'Israël, « Loin de moi de pécher contre l'Éternel et de cesser de prier pour vous. » 1 Samuel, chapitre 12, verset 23. Les chrétiens doivent donc prier du fait que cela nous est si clairement ordonné dans la sainte parole de Dieu. Deuxièmement, nous devons prier parce que la prière est vraiment le moyen choisi par Dieu pour que les chrétiens obtiennent des bénédictions. Le monde incrédule cherche à satisfaire ses désirs par ses propres efforts, son travail, ses méthodes, parfois même par l'effet d'un heureux hasard, pourquoi pas. Mais les enfants de Dieu sont enseignés à tout obtenir en le demandant à leur Père céleste. Et la raison pour laquelle nous ne le recevons pas, je crois que c'est que nous ne demandons pas. Il nous est dit dans Jacques, chapitre 4, verset 2, « Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et même envieux, et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes, et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Lutter, se quereller, faire des intrigues, ce n'est certes pas la méthode de Dieu pour ses enfants. » C'est en demandant que nous devons obtenir. Il n'est pas dit « Vous n'obtiendrez pas parce que vous ne travaillez pas », mais il est dit « Parce que vous ne demandez pas ». Demander est donc le moyen ordonné de Dieu pour procurer aux chrétiens ce dont il a besoin. Alléluia ! Il est évident que si le paysan veut obtenir une moisson, il lui faut labourer sa terre et l'ensemencer. Le travail joue donc ici un rôle indispensable. Et pourtant, on peut dire que de fermiers, après avoir travaillé dur et déployé toute leur intelligence, ont vu carrément leur moisson qui était ruinée tout simplement par la sécheresse ou par des parasites, ce qui prouve que le labeur et le génie humain ne peuvent servir de point d'appui. Le chrétien ne saurait donc compter ni sur ses efforts, ni sur ses propres plans, mais s'adresser à Dieu pour obtenir de lui le succès dans son travail. Par exemple, un chômeur, il peut s'appliquer à chercher une situation en faisant tous les bureaux de placement de la ville, en se faisant pistonner même, et ceci par des personnes haut placées, etc. Mais ne rencontrer malgré cela qu'un lamentable échec. Et là, je pense à un cher ami israélien qui cherche déjà depuis un moment un travail. Mais voyez-vous, Dieu soit béni, le chrétien possède d'autres ressources. Il peut prier et obtenir de son Dieu le gagne-pain indispensable à sa vie. Au cours d'un sermon sur la prière, un évangéliste se sentit poussé à s'adresser directement à un certain jeune homme assis au second banc. Le montrant du doigt, il lui dit qu'il demandait carrément, en le montrant du doigt, « As-tu du travail, jeune homme ?» Et le jeune homme répondit négativement. Oh, alors, si Dieu te donnait du travail, serais-tu décidé à le servir de tout ton cœur? Oh oui, monsieur, et Dieu sait si j'en ai besoin. Eh bien, dès ce soir, demande-le au Seigneur. Et je pense à nouveau à ce cher ami israélien que j'ai rencontré hier soir avec mon frère. Et de mon côté, oh oui, de mon côté, croyez-moi, je prierai aussi pour ce jeune homme, car Dieu a dit, si tu vois quelque chose dans ma vie qui te déplaise, eh bien je veux l'abandonner tout de suite. Mais si ma prière au sujet d'un travail est bien conforme à ta volonté, je m'attends à toi pour me l'accorder sans délai en réponse à ma prière. Quelques jours plus tard, étant de retour chez lui, l'évangéliste reçut de ce jeune homme une lettre enthousiaste racontant comment il avait obtenu tout juste le genre de travail qu'il désirait. Le cœur débordant de reconnaissance, il termina en disant « Oh, je voudrais dire à tout le monde que le meilleur moyen d'obtenir ce qu'on veut, c'est de le demander au Seigneur. » Notre Sauveur nous a enseigné à prier dans Saint Matthieu chapitre 6 verset 11 en disant « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. » Donc, le moyen d'obtenir ce pain, c'est de le demander à Dieu. Ce qui ne veut pas dire, évidemment, que le chrétien doive être simplement paresseux et peut-être même demandier. Bien au contraire, l'homme de prière sera toujours prêt à faire n'importe quel travail sous les ordres de son Dieu. Mais il ne dépendra pas de ce travail, il s'adressera à son Père Céleste pour en obtenir le fruit en réponse à la prière. N'oublions pas que Dieu peut juger bon d'employer des moyens humains, comme par exemple les docteurs et les remèdes pour guérir les malades. Saint Luc est appelé le médecin bien-aimé, si je me souviens bien. Et l'apôtre Paul exhorte Timothée à prendre un peu de vin, ceci pour son estomac. Je crois que c'est dans 1 Timothée, chapitre 5, verset 23. Le roi Ézéchias a été guéri après qu'on a en effet eu sur l'ordre d'Ésaïe, carrément posé un emplâtre de figue sur son ulcère. C'est dans Ésaïe, chapitre 38, verset 21. Dieu peut donc employer des moyens naturels dans l'exaucement de nos prières. Il peut nous faire trouver du travail à travers un bureau de placement, nous donner une moisson résultant de notre propre labeur, etc. Mais n'oublions jamais que Dieu n'emploie pas toujours, pas invariablement, ses intermédiaires. Il peut aussi, en dehors de tout facteur prévisible, exaucer nos prières, guérir les malades sans aucune intervention médicale et nous envoyer l'argent nécessaire sans que nous l'ayons gagné. Je le sais bien, par ma propre expérience, béni soit son saint nom. Oh oui, je ne peux cesser de le remercier. De fait, et que soit par des moyens naturels, soit par des voies tout à fait extraordinaires et inattendues, c'est toujours Dieu qui nous accorde ce dont nous avons besoin. Et le moyen de l'obtenir, c'est de le lui demander. La prière est la condition établie par Dieu pour rencontrer les besoins de ses enfants. Tous, oui, on peut dire tous les autres moyens peuvent parfois échouer. Et vous convoitez, est-il dit, et vous ne possédez pas, bien que vous convoitez. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Supposons deux hommes en tête à tête. L'un est totalement croyant, l'autre, il est inconverti, donc absolument athée. L'incrédule se plaint d'être sans travail, d'avoir les pieds meurtris, de courir d'un bureau à l'autre sans succès. Si le chrétien répond exactement sur le même ton, « Oh, moi aussi, je suis exactement comme vous. J'ai fait tous les bureaux et toutes les usines sans jamais rien trouver. Nous vivons des temps bien durs et les pauvres gens n'ont guère de chance. Qu'est-ce à dire tout cela ? Que le chrétien n'a pas d'autres ressources dans ce monde que le pécheur qui est sans espérance ? À Dieu ne plaise. À quoi bon alors appartenir au Seigneur si vous n'avez personne, absolument personne, qui réponde à vos prières, qui prenne soin de vous à l'heure du besoin ? Il n'y a dans une vie pareille ni joie, ni témoignage, ni victoire. Mais Dieu soit béni. Le chrétien peut prier avec une pleine confiance. Il peut dire « Père, tu sais que ton enfant a besoin de travail pour vivre. Le monde entier est entre tes mains. Donc, je te demande de me procurer ce gagne-pain pour me permettre de nourrir ma famille, de donner à ton œuvre et de dire au monde que tu es un Dieu fidèle qui prend soin de tes enfants. Et pour des millions d'âmes, Dieu a répondu à une telle prière. Le Dieu qui tient compte des passereaux, qui a revêtu les lys des champs de plus de beauté même que Salomon dans toute sa gloire, et qui connaît le nombre des cheveux de ses rachetés, ce Père céleste a ordonné que toute chose soit accordée à ses enfants par le moyen de la prière. Troisièmement, la prière est le secret de la plénitude de la joie pour le croyant. les chrétiens devraient être des gens heureux, des gens satisfaits. Ils ne devraient pas vivre dans la tristesse et la défaite, tourmentés par des désirs non réalisés. Dieu a pourvu pour ses enfants une plénitude de joie par l'exaucement constant de leurs prières. Dans Saint Jean, chapitre 16, verset 24, Jésus dit à ses disciples « Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. » Imaginez un enfant dont le père l'aime tellement qu'il peut venir à lui tous les jours et lui demander tout ce dont il a besoin. Si dans son ignorance, il réclame une chose qui ne pourrait que lui nuire, son père lui explique patiemment ses raisons pour la lui refuser et lui enseigner à demander ce qui est le meilleur pour lui. Ainsi, l'enfant se trouve pleinement satisfait et vit heureux dans la compagnie d'un père qui se plaît à lui accorder les désirs de son cœur. Et c'est précisément ce que Dieu veut faire pour ses enfants, et infiniment plus que cela. Oh oui, car le père humain ne peut transformer les dispositions de son enfant, et bien souvent, les parents fortunés voient leur enfant devenir indolent, blasé, et leur fortune devient plutôt une malédiction qu'une bienfaisance ou un bienfait. Mais Dieu, il peut enseigner ses enfants et les conduire par le Saint-Esprit à prier pour les bénédictions qui lui apporteront une parfaite joie. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il ne la fait suivre d'aucun chagrin, nous est-il dit dans Proverbe, chapitre 10, verset 22. Par exemple, un mari peut dépenser des sommes considérables dans le but de procurer le bonheur à sa jeune épouse, mais il ne peut lui acquérir ni la santé, ni l'enfant après lequel elle soupire depuis longtemps, ni la paix du cœur au sein d'un tourbillon de la vie mondaine. Personne ici-bas ne peut dispenser la plénitude de la joie. Seul notre Père Céleste la donne en exaucant nos prières et en nous conduisant à prier comme il convient, de manière à être exaucé. La prière est donc le secret de la plénitude de la joie. Une vie riche et bénie dépend de la place qui est donnée à la prière. Apprenons donc, chers amis, à prier, et ceci de tout notre cœur. Quatrièmement, parce que la prière est le remède à tous nos maux, l'issue hors de tous nos soucis et de toutes nos anxiétés. Si la prière est le moyen d'obtenir ce que nous désirons, elle est aussi le remède à tous nos maux, le moyen de nous délivrer de nos peines et de nos soucis. Il nous est dit dans Philippiens chapitre 4, versets 6 et 7, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Donc, ne vous inquiétez de rien, dit la parole de Dieu. Les chrétiens ne devraient pas être écrasés de soucis dans l'anxiété pour quoi que ce soit. Le remède à cet état d'âme, c'est faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. le chrétien est appelé à triompher par la prière dans toutes les situations qui se présentent. Ainsi, de jour en jour, il voit ses craintes et ses soucis s'évanouir, et son cœur est gardé dans une parfaite paix, car Dieu a promis à ceux qui lui exposent ainsi leurs besoins que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ. Se mettre en souci est donc un péché, car c'est l'opposé de la confiance. Et cependant, combien de chrétiens s'en rendent sans cesse coupables? Ils y perdent leur joie. Ils vivent dans l'incertitude, harassés par des fardeaux qu'ils ne devraient pas porter, par des craintes qu'ils ne devraient pas entretenir. Et le secret pour mettre fin à tout cela, c'est tout simplement d'apporter nos soucis à Dieu jour après jour, dans la prière et la supplication, avec des actions de grâce. Nous trouvons le même commandement sous une autre forme dans la première épître de Pierre, chapitre 5, verset 7. « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Et encore, au psaume 55, verset 23. « Remets ton sort à l'Éternel, et il te soutiendra. » Tout chrétien, oui, tout chrétien authentique, devrait être caractérisé par un état d'âme calme et paisible, exempt de tout souci, le cœur rempli d'une paix profonde que le mondain ne peut jamais atteindre, car le monde est incapable de la donner. Et voilà la marque évidente du vrai disciple de Christ, toujours heureux parce que tous ses fardeaux ont été déchargés sur son Sauveur. Tout enfant de Dieu devrait pouvoir se glorifier selon les paroles du psalmiste au psaume 34, verset 7, qui nous dit « Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il sauve de toutes ses détresses. » Chers amis, avez-vous été délivrés de toutes vos angoisses? Êtes-vous, jour après jour, affranchis de tous les soucis et de toutes vos inquiétudes? Vous pouvez jouir de cette délivrance et vous pouvez posséder cette paix intérieure, cette libération de toute inquiétude. Oh oui, le moyen de l'obtenir, c'est de prier. Oui, de prier pour toutes choses. Oui, je vous le répète, de prier avec persévérance jusqu'à ce que cette paix de Dieu, qu'il a pourtant promise, il l'a promis aux siens, descende dans ton cœur et que, libre de toute anxiété, ta journée se termine par des actions de grâce, même si tu es bien fatigué. Un docteur évangéliste, le docteur Wilson, avait fait faire un écriteau dans son bureau portant ces étranges paroles. Pourquoi prier si l'on peut se mettre en souci? Cela exprime l'état d'âme de la majorité des chrétiens. Ils se mettent en souci au lieu de prier. Mais la prière, c'est la fin des soucis. C'est le secret d'une paix constante, quelles que soient les circonstances, en tout temps et en tout lieu. Cela ne veut pas dire, évidemment, que le chrétien soit exempt d'épreuves. Mais au sein même de la souffrance, il possède cette précieuse paix dans son cœur. Cela ne veut pas dire qu'il ne soit jamais malade, mais dans la maladie, il aura la présence constante du Saint-Esprit qui est son consolateur. Le chrétien peut avoir tout comme un autre homme, ses problèmes à résoudre, mais il en trouvera la solution en les apportant à Dieu, le cœur libéré de toute anxiété à ce sujet, de toute crainte provenant de l'incrédulité. Un chrétien peut apporter au Seigneur ses fardeaux jour après jour et les lui laisser, de sorte qu'il jouisse d'une paix totale et constante quoi qu'il arrive. Et le moyen de parvenir à cet état-là, évidemment, c'est de prier avec persévérance, de prier régulièrement, et oui, et d'apporter tout à Dieu avec des actions de grâce. Donc, si vous êtes oppressé sous un lourd fardeau, priez jusqu'à une pleine libération. N'ayez pas peur. Ô quel ami nous avons en Jésus-Christ, lui qui porte nos péchés au calvaire. Apportons-lui donc tout dans la prière, ainsi nos peines et nos soucis ne seront plus. Pourquoi perdons-nous souvent notre paix et succombons sous le fardeau de nos peines? Parce que notre foi est incertaine et que nous ne comptons pas sur Dieu d'un cœur parfait. Donc, un croyant peut prendre l'habitude de faire de chacun de ses besoins, de ses problèmes, de ses fardeaux, carrément un sujet de prière, un sujet d'obéissance aussi. Obéissons ainsi à l'ordre de son Sauveur. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas « Que mangerons-nous ? Que boirons-nous ? De quoi serons-nous vêtus ?» Saint Matthieu 6, verset 25. Les gens du monde sont préoccupés de ces choses-là. Ce sont là les problèmes qui les hantent chaque jour. Mais le chrétien qui possède dans le ciel un Père bien-aimé et qui sait qu'il peut lui remettre en confiance tous ses fardeaux et en même de rechercher premièrement son royaume et sa justice, sachant très bien que toutes ces choses lui seront données par-dessus tout. Saint Matthieu, chapitre 6, verset 33. Ainsi, en abandonnant sans cesse à Dieu tous les soucis dans la prière, l'enfant de Dieu apprend à ne pas se mettre en peine du lendemain, mais à jouir d'une parfaite paix jour après jour. Puisse donc la prière et le moyen divin de nous affranchir de nos angoisses et de nos soucis, mes chers amis. Oh oui, apprenons à prier dans toutes circonstances et pour tout ce qui concerne notre vie journalière. Cinquièmement, la prière, elle est exaucée. Et c'est le suprême argument à s'opposer au scepticisme, à l'incrédulité et au rationalisme. Ça, c'est notre cinquième point. Vous l'avez bien compris, c'est donc la prière exaucée et le suprême argument à opposer carrément au scepticisme, à l'incrédulité et au rationalisme. Et nous avons déjà vu dans Hébreux chapitre 11 verset 6 que nul ne peut venir à Dieu s'il ne croit qu'il est un Dieu qui répond à la prière. Et quel est le meilleur ou la meilleure réponse à l'athéisme, chers amis, au rationalisme du temps présent ? N'est-ce pas la démonstration de la foi par l'exaucement indéniable de nos prières? N'est-ce pas ainsi que les incroyants seront convaincus du fait qu'il existe vraiment un Dieu fidèle qui entend et qui répond aux prières de ses enfants. Le moyen de triompher de l'incrédulité est donc de permettre à Dieu de prouver sa puissance par l'exaucement de la prière. Oui, nous voyons ainsi, même en lisant l'Ancien Testament, que en Égypte, quand Dieu a accompli par Moïse ce qu'ils ne purent faire par leur enchantement, eh bien les magiciens dirent à Pharaon, « Ça, c'est le doigt de Dieu. » Exode chapitre 8, verset 15. Ainsi, une réponse définie à la prière a pu convaincre ces magiciens impies. Eh oui, et quand Dieu, en réponse à la prière de Daniel, « Oh, quel merveilleux prophète !» et de ses amis, lui révéla le rêve de Nebuchadnezzar. On peut aussi dire Nebuchadnosor. Eh bien, ce grand incrédule a été frappé de conviction et il est tombé sur sa face en disant « En vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des rois. » Et il révèle les secrets, puisque tu as pu découvrir ce secret. Daniel chapitre 2, verset 20, verset 47. Donc je répète, c'est bien Daniel chapitre 2, verset 47. Et plus tard, oui, plus tard, Dieu révéla encore, toujours à Daniel, un autre rêve de ce même roi au chapitre 4. En lui annonçant qu'il vivrait, oui, qu'il vivrait, oh Allah, alors là c'est terrible, qu'il allait devoir vivre comme une bête, et ceci pendant 7 années. Et quand le monarque a été rétabli de son état d'aliénation mentale, et qu'il a retrouvé sa gloire première, les Saintes Écritures déclarent qu'il fut vraiment converti, sauvé, né de nouveau à Dieu, à Yahvé l'Éternel. C'est dans Daniel chapitre 4 verset 34 à 37. Ainsi, l'exaucement de la prière est véritablement le remède suprême à l'incrédulité. C'est donc là une question à laquelle il convient de faire face. Honnêtement, si les églises de notre pays, chers amis, voyaient de nouveau ou pourraient de nouveau constater la conversion d'ivrognes et de prostituées, des vies totalement transformées, des chrétiens obtenant par leurs prières la guérison des malades, la délivrance dans leurs difficultés matérielles, le réveil des croyants et le salut des pécheurs, alors le modernisme et l'athéisme perdraient d'un seul coup leur emprise sur les masses et les impies eux-mêmes. Oui, les impies, les non-croyants, ceux qui se moquent, serait obligé de reconnaître qu'il existe un Dieu qui fait des miracles en réponse à la prière de ses enfants. Nous devons donc prier et obtenir l'exaucement de nos prières pour apporter l'antidote par excellence de l'incrédulité. Oui, l'argument indéniable à opposer carrément aux idéologies négatives. Croyez-moi, chers amis, ce n'est pas toujours dans la volonté de Dieu de guérir les malades, ça c'est vrai. Cela ne l'a pas toujours été non plus, même dans les temps bibliques. Mais il les a tout de même guéris assez fréquemment pour prouver qu'il est le Dieu qui répond à la prière. Du reste, Dieu connaît nos cœurs. C'est là le problème. N'oublions jamais cela. Et il sait très bien ce qui est le meilleur pour chacun d'entre nous. J'ai connu une merveilleuse servante de Dieu dans une chaise roulante qui a amené plus d'âmes au Seigneur, au salut, que 10 évangélistes ensemble. Voyez-vous, Dieu n'a pas sauvé tous les pécheurs par le ministère de Saint Paul, ni par aucun autre ministère ancien ou moderne, mais par contre, il a montré, en sauvant les plus bas tombés, les plus endurcis des pécheurs, qu'il est toujours le Dieu des miracles, le Dieu qui exauce la prière, et il est prêt à le faire encore si seulement nous nous confions en lui pour montrer que sa toute-puissance est toujours la même. Il y a une simple, on appelle soldat de l'armée du salut, donc non gradé, qui à Hambourg, près de la Reeperbahn, où il y a des demoiselles qui s'offrent à des hommes, elle a arraché aux ténèbres des dizaines de ces femmes qui ont été sauvées à salut uniquement par la prière et un amour profond et sincère pour ces perdus. N'est-ce pas merveilleux cela? Oui, je crois que on peut en prendre de la graine, non? Et c'est, comme je le répète encore une fois, une question à laquelle il convient de faire face honnêtement. Et je le répète encore une fois, ce n'est jamais de trop. Si les églises de notre pays voyaient de nouveau la conversion d'ivrognes et de prostituées, des vies transformées, des chrétiens obtenant par leur prière la guérison des malades, eh bien la délivrance aussi dans leurs difficultés matérielles, eh bien le réveil des croyants et le salut des pécheurs, alors là, croyez-moi, le modernisme et l'athéisme prendraient d'un seul coup leur emprise sur les masses et sur les impies eux-mêmes. Et ces impies, ces non-croyants, ces athées seraient obligés de reconnaître qu'il existe un Dieu qui fait des miracles en réponse à la prière de ses enfants. Et oui, je crois cela de tout mon cœur. Donc, les miracles ne s'appliquent pas seulement aux miracles d'ordre physique. Oh non! Dieu démontre abondamment, et écoutez bien cela, parce que ça, c'est très important, car il y a même des servantes et des serviteurs de Dieu qui devraient réécouter ce passage, car Dieu démontre abondamment sa toute-puissance en sauvant ceux pour lesquels nous prions, en pourvoyant à notre pain quotidien, en donnant la paix et la sagesse pour faire face à nos problèmes, la joie et la puissance du Saint-Esprit. Et c'est pourquoi nous devons persévérer dans la prière, car elle est le moyen de dissiper tous les doutes et de triompher de tout scepticisme parmi les hommes et les femmes. Donc, là, écoutez bien, le sixième point, ce sixième point est important, car la prière est le seul moyen d'obtenir la puissance du Saint-Esprit pour le service de Dieu. Comme le disait le fameux Moody, le docteur Moody, il est insensé et même coupable d'essayer de faire l'œuvre de Dieu sans la toute-puissance de Dieu. Mais il n'y a pas d'autre moyen pour le chrétien d'obtenir cette puissance que par la prière. Dans Saint Luc, chapitre 11, verset 13, nous trouvons cette promesse bien positive. Si donc, méchant, comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à tous ceux qui le lui demandent ? Oui, le Seigneur ne parle pas ici de l'habitation de l'Esprit Saint dans le cœur du croyant. Voyez-vous la différence ? Lequel cet Esprit Saint nous est donné à partir dès l'heure de notre conversion et dès le moment où, après sa résurrection, Jésus-Christ a soufflé sur les disciples en disant « Recevez le Saint-Esprit » selon saint Jean chapitre 20, verset 22, tous les chrétiens possèdent le Saint-Esprit, peuvent posséder le Saint-Esprit et demeurer donc ainsi en eux par le Saint-Esprit, avoir la puissance du Seigneur. Oui, toute personne sauvée devient maintenant, à ce moment même, le temple du Saint-Esprit qui habite en elle. Je répète, toute personne sauvée peut devenir le temple du Saint-Esprit qui habite en elle. Selon Romains chapitre 8, verset 9, et je crois 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19 à 20, et encore 2 Corinthiens chapitre 6, verset 16. Mais dans ces passages, et aussi dans le passage de Saint Luc chapitre 11, Jésus-Christ veut dire qu'il donnera la puissance du Saint-Esprit, et ceci pour le salut des âmes, à tous ceux qui le lui demandent. C'est clair et net. Jésus-Christ donne l'application de tout cet enseignement dans sa promesse bénie. Il donne, et à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il, nous est-il dit, le Saint-Esprit, à qui ? À quelques-uns seulement ? À des privilégiés ? À ceux qui ont fait l'université ? À ceux qui ont fait la Sorbonne ? Non. Il donne le Saint-Esprit à tous ceux qui le lui demandent. Mais ne pouvons obtenir le pain pour les pécheurs qu'en le demandant à Dieu. Il n'y a pas d'autre moyen, car l'importunité d'importuner carrément le Seigneur, faut pas avoir peur de l'importuner, de insister. Et Jésus-Christ dit que c'est la méthode la meilleure pour obtenir d'un ami le pain nécessaire aux voyageurs affamés, c'est d'intercéder. Et il a toujours été prouvé que les réveils ont été donnés en réponse à la prière. Et dans 2 Chroniques, ce qui se trouve dans l'Ancien Testament, chapitre 7, verset 14, Dieu a promis un réveil. Si mon peuple, a-t-il dit, sur qui est invoqué mon nom, pourrait s'humilier, pourrait prier, là ça changerait tout. Voyez-vous, si un chrétien désire ardemment être revêtu de la puissance d'en haut, voici le meilleur moyen de l'obtenir. Qu'il s'applique, écoutez bien, à rechercher la face de son Dieu dans la prière, en confessant ses péchés et en se jugeant lui-même, elle-même, dans un acte de consécration sans réserve et qu'il et qu'elle s'attendent à son Dieu jusqu'à ce que le Saint-Esprit puisse le ou la remplir et l'utiliser puissamment. Alléluia. Examinons ensemble tous les cas mentionnés dans la Bible où la puissance de l'Esprit-Saint a été reçue en réponse à la prière. Premièrement, nous avons, avant la Pentecôte, les disciples qui ont prié. Ils montèrent dans la chambre haute et tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus-Christ, et avec même les frères de Jésus-Christ. Actes chapitre 1, versets 13 à 14. Ce que peut faire comprendre à nos chers amis catholiques que Jésus-Christ avait bel et bien des frères. Et c'est à la suite de ces 10 jours de prière et de supplication que le Saint-Esprit est tombé sur les disciples le jour même de la Pentecôte et que 3000 âmes ont été perdues. Oh non, ont été sauvées et baptisées de l'Esprit-Saint. Deuxièmement, après la Pentecôte, les disciples avaient besoin d'être à nouveau remplis de l'Esprit-Saint et ils ont encore et encore prié. Il nous est dit cela dans Actes chapitre 4, verset 31. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec une nouvelle assurance. Ça, c'est selon une version amplifiée anglaise. Mais ce n'est pas faux. Je répète, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Et si nous comparons les termes de ces deux passages-là, selon Actes chapitre 2 verset 4 et encore toujours Actes chapitre 4 verset 31, nous voyons qu'ils sont absolument identiques. Il est dit « ils furent tous, pas seulement un, mais tous, remplis du Saint-Esprit ». Ils prièrent, et ceci déjà avant la Pentecôte. Et là, l'Esprit-Saint descendit sur eux. Et encore, ils prièrent après la Pentecôte, et le résultat fut identique. La prière était donc nécessaire tant après que avant la Pentecôte. Et la prière produisit absolument les mêmes résultats. Troisièmement, à Samarie, oui, Philippe a prêché l'Évangile et il y eut plusieurs conversions authentiques. Mais la puissance de l'Esprit-Saint en vue du témoignage ne fut donnée aux néophytes qu'après la prière des apôtres. Il nous est dit dans Actes chapitre 8, versets 14 à 16, « Ils envoyèrent l'apôtre Pierre et Jean, et ceux-ci prièrent pour eux. Pourquoi ? Afin qu'ils reçussent, qu'ils puissent recevoir le Saint-Esprit. Car ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient donc seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et notez bien la distinction qui est mentionnée dans les Écritures saintes entre la présence du Saint-Esprit dans le chrétien et sa venue sur lui. Je répète, notez bien la distinction qui est mentionnée dans les Saintes Écritures entre la présence du Saint-Esprit dans le chrétien, quand nous sommes nés de nouveau, nous sommes sauvés, nous avons accepté Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur personnel. Et donc, là, il y a une distinction entre cela et entre sa venue, la venue de l'Esprit-Saint sur nous, sur lui, sur elle. Et ses disciples le possédaient déjà en eux, bien sûr, comme tous les chrétiens depuis la résurrection du Sauveur. Mais, par contre, le Saint-Esprit venant sur le croyant, là, c'est la puissance divine qui est donnée pour le service. Avons-nous bien compris cela ? Quatrièmement, l'apôtre Paul a été rempli du Saint-Esprit 3 jours après sa conversion. Voyez-vous, l'apôtre Paul, saint Paul, c'est pas n'importe qui. Il était sauvé. Hein ? Or voilà qu'on nous dit que l'apôtre Paul a été rempli du Saint-Esprit 3 jours après sa conversion. Cela devrait nous donner à réfléchir, et cela en réponse à la prière. Donc, dans Actes chapitre 9, nous avons le récit de sa conversion, suivi de 3 journées de jeûne et de prière. Verset 11. Et pourquoi donc l'apôtre Paul priait-il tellement ? Eh bien, la réponse est donnée au verset 17 du chapitre 9. Saul, mon frère, dit Ananias, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin, etc., m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Cinquièmement, l'apôtre Paul et Barnabas furent spécialement revêtus du Saint-Esprit pour leur premier voyage missionnaire en réponse à la prière. Dans Actes chapitre 13, versets 1 à 4, nous avons le récit d'un groupe de croyants rassemblés dans le jeûne et la prière, jusqu'à ce que le Saint-Esprit leur dise « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Il nous est dit ensuite, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Quoi d'étonnant à ce qu'il y eut alors bien des miracles opérés pour le salut des âmes à travers ces ouvriers merveilleux envoyés par le Saint-Esprit. Et ceci en réponse à la prière de leurs frères et sœurs. J'ai dit aussi leurs sœurs, parce que croyez-moi, les sœurs, nous ne devons jamais les oublier, c'est souvent les plus ferventes. C'est mon expérience qui m'a démontré cela et fait comprendre cela. Et sixièmement, c'était toujours la prière constante de l'apôtre Paul pour les autres croyants, qu'il soit rempli du Saint-Esprit. Dans Éphésiens, chapitre 1, verset 15, jusqu'au verset 19, il mentionne sa prière pour les saints d'Éphèse, et je crois en ces termes, qu'il vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, pour que vous sachiez quelle est l'infinie grandeur de sa toute-puissance. Et encore, dans Éphésiens, chapitre 3, versets 14 à 19, il est dit, à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son Esprit Saint dans l'homme intérieur, en sorte que vous soyez rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu. L'apôtre Paul priait pour que ces chrétiens soient remplis du Saint-Esprit, car sa puissance est donnée en réponse à la prière. La prière et les supplications incessantes à Dieu, tel est le secret de la puissance qui est survenue à la Pentecôte, résultant dans le salut d'un très grand nombre d'âmes. La confession des péchés, cela a toujours été le moyen béni par Dieu dans les temps de réveil, comme pour le revêtement de puissance de chaque serviteur et servante qui s'est attendu à lui. Il nous faut donc prier, chers frères et sœurs, car c'est le moyen que Dieu nous a donné pour obtenir la puissance du Saint-Esprit en vue de son service. Et pour terminer, septièmement, il est dit que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera perdu. Non, vous avez mal compris. Je répète. Quiconque invoquera le saint nom du Seigneur sera sauvé. Gloire à Dieu. Dans Romains chapitre 10, verset 13, il nous est dit que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Il est donc permis à un pécheur perdu de prier pour être sauvé. Oh oui! Et dans Saint Luc chapitre 18, nous voyons le pauvre publicain se frapper la poitrine en criant « Sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Et nous le voyons rentrant chez lui, totalement justifié, sauvé par sa grâce, par la divine grâce du Seigneur. Et ceci le jour même, pas dans 50 ans. Et de même, nous avons la touchante histoire du brigand sur la croix. Oh, il se tournait simplement vers Jésus-Christ, qui était crucifié à côté de lui, et lui dit, « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Et la promesse bénie du Sauveur sera aujourd'hui, là, une réalité. Car aujourd'hui, tu seras avec moi, a dit le Seigneur Jésus-Christ. Oui, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Saint Luc, chapitre 23, versets 39 à 43, nous dit aussi que ainsi, que tous les pécheurs perdus ont le droit de prier. Et toute âme qui invoque sincèrement, toute âme et esprit, n'oublions pas de le dire, j'ai appris cela vraiment à fond. Donc je répète, ainsi les pécheurs perdus ont le droit de prier et toute âme et esprit qui invoque sincèrement le nom, le saint nom du Seigneur, sera sauvé. En conclusion, nous, on peut dire, souvenons-nous donc de ces sept raisons que j'ai essayé de vous expliquer sur ce CD pour lesquelles nous devons prier. Mes chers frères bien-aimés et mes chères sœurs bien-aimées, tout cela est donc la raison profonde et combien nous devrions redoubler ensemble de zèle, être zélés dans la prière. Chers amis, je voudrais encore vous dire quelque chose qui ne m'a pas trop fait plaisir, mais on entend toutes sortes de choses. Donc, un chrétien me dit dernièrement, tu as 84 ans bientôt, et à la place de profiter des petits voyages ou aller te détendre sur une terrasse d'un sympathique café, et là, tu travailles encore pire qu'avant, tu fais ce très difficile travail que même un chrétien de 40 ans aurait de la peine à faire. Et tu n'as donc pas compris qu'on n'est pas sauvé par les œuvres. Il me répète cela parce que c'est le diable qu'il lui souffle à l'oreille, ces mots-là. Que nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. Mais croyez-vous que je ne sache pas qu'après avoir fait bientôt plus de 1000 CD, ce qui représente plus de 61 heures de travail penché sur des textes bibliques, que j'ai pas compris tout cela, que nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. Bien sûr, je serais aveugle et sourd et muet de n'avoir pas compris cela. Mais je ne le fais pas pour être sauvé, mais pas du tout. Je le fais pour que des âmes puissent recevoir ces études et dans l'espoir, parce que je prie pour cela, pas seulement moi, pour que des âmes soient sauvées, puissent réfléchir un peu à tout ce qui se passe aujourd'hui et que le Saint-Esprit puisse leur faire comprendre la raison véritable qui est que le plus d'âmes possibles doivent vraiment être atteints, puissent être atteints par la parole de Dieu avant qu'il soit trop tard. Oh oui, car il y a encore une semaine, il y a eu un débat culturel à la télévision où des célébrités, des écrivains, des grands acteurs du théâtre, des acteurs de cinéma, des chanteurs, des peintres célèbres qui, écoutez bien cela, qui ont passé même 80 ans comme moi et qui ont expliqué, bien que ce ne sont pas des personnes religieuses, croyantes, nées de nouveau, mais qui ont dit ceci, que sur le plan culturel, pour leur esprit et pour aussi pour continuer, parce qu'ils ont vraiment reçu quelque chose dans leur cœur qui les fait continuer, et personne leur a fait une remarque désobligeante en disant « mais tu devrais aller te reposer » ou « tu devrais aller au bord de la mer, tremper tes pieds dans la mer ». Non, non, non. Ils continuent parce que cela les motive, cela leur donne une motivation dans leur art, dans ce qu'ils aiment faire. Et moi, la même chose. J'aime faire tout ce que je peux pour servir mon Seigneur, pour que des âmes soient sauvées. Or, Satan inspire certains chrétiens à la critique uniquement pour freiner l'œuvre de Dieu, pour freiner l'œuvre de Dieu pour le salut des âmes. Mais croyez-moi, je ne vais pas leur faire ce plaisir-là. Jamais. Chers amis, j'aimerais maintenant, parce que je ne vais pas prier pour vous cette fois-ci, Mais je vous demande une chose fabuleuse et merveilleuse. Veuillez, s'il vous plaît, et le Seigneur me met cela dans le cœur par le Saint-Esprit, donc je ne dis pas cela au hasard. Veuillez simplement, je vous en supplie, encore une fois, écoutez ce CD. Notez certaines choses. Et à la fin, vous recevrez, croyez-moi, c'est vrai, dans le cœur, de prier exactement pour les points que l'Esprit-Saint vous montre, pour que vous puissiez prier pour recevoir le Saint-Esprit dans votre être, dans votre âme, dans votre esprit. Et le Seigneur vous répondra, il répondra, il exaucera, croyez-moi, votre prière. Mais cela ne vous empêche pas de vous adresser à un ou deux serviteurs qui ont reçu le baptême du Saint-Esprit et qui peuvent aussi vous imposer les mains pour le recevoir. Vous savez, ce n'est pas parce que vous ne sentirez pas quelque chose qui va vous ébranler et même vous faire chuter par terre, et j'en ai vu des choses comme ça, que ce sera le meilleur moyen de croire que vous l'avez reçu, ce Saint-Esprit. Mais même si vous ne ressentez pas quelque chose qui vous ébranle totalement, croyez-moi qu'il vous faut simplement avoir la foi très profonde, très certaine et très convaincue en vous. Et par cette foi, eh bien, dans quelques jours, vous sentirez qu'il va se faire un changement en vous. Mais ce changement, nous devons aussi le désirer. Simplement penser que le Saint-Esprit va tout faire automatiquement et que nous pourrons continuer de fumer et de faire certaines choses qui sont peut-être pas toujours recommandables. Non, nous devons aussi donner de nous-mêmes. Nous devons aussi se donner la peine de pouvoir œuvrer dans le bon sens, avec sagesse. Alors, s'il vous plaît, simplement, mettez-vous à genoux et priez. Et vous verrez, Dieu est fidèle. Et par son Fils bien-aimé Jésus-Christ, il vous donnera ce dont votre cœur a besoin. Amen. Et merci encore à vous tous pour la gentillesse, pour l'intérêt que vous portez à ces études. Et j'espère que vous continuerez d'écouter, car cette série très 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 importante concernant la prière, croyez-moi, elle continue encore un bon moment. Et après viendra ce qui va avec, l'étude sur ce qui concerne la guérison, les miracles. Mais avant, on doit maîtriser totalement la question de la prière. Vous n'allez pas mettre la charrue devant les bœufs. Cela, ce n'est pas la bonne méthode. À bientôt à nouveau, mes très chers amis. Au revoir.